Le football de la NFL.
Super Bowl. Let's have a day, Jim.
All right.
Down to the goal line. Here's Patterson. He's dangerous. He's going to try that left side. He's taken off. Down the sideline, and finally, it's Surline, the kicker. Brady's pass. Ball in the air, and it's intercepted. It's picked off on his first throw by Littleton.
And it's a zone dropout.
Running better.
42 yards, the kick. It's good.
Been a lot of success.
All time in the Super Bowl. Field goals made from plus 50. This is 53 yards to tie it. And Surline's kick is good. Second and three. Down the field they go. Gronkowski has it at the 2-yard line.
The same play three times in a row. Element over the middle. Gronk on a seam. And the ball is perfect.
First play in the red zone. The first one for the game on either side. From the two. First and goal. Running it for the touchdown. Sony Michel.
Belichick's going to become the oldest coach supplanting Tom Coughlin, who was 65 when he beat the Patriots in Super Bowl 46. And there it is. The dynasty continues.
Très bon montage concocté par notre collègue Will. Les amateurs de football en général ont été déçus du spectacle d'hier. Plusieurs personnes ont manifesté leur mécontentement du spectacle de la mi-temps. Évidemment, encore une fois, le grand gagnant de cette soirée-là, c'est Tony Romo, qui est analyste aux côtés de Jim Nantz à CBS. Et nous, au 93, on est chanceux parce que nos analystes football également sont bons. Donc, le spectacle dans les prochaines semaines, dans les prochaines minutes, va être à la hauteur de vos attentes. Et ne vous inquiétez pas, je m'en porterai pas. J'ai fait mon 3 minutes de crise sur les gens qui haïssent les pattes. J'ai très hâte de vous lire, d'ailleurs, au 25-2-6. On va faire ça tout à l'heure. Mais je vais laisser les experts que sont Stéphane Canoret, du Journal de Québec, et Will, notre collègue ici à la station, Will Boivin, vous entretenir de ce qu'ils ont vu dans le match d'hier, Super Bowl 53. On débute avec Stéphane parce qu'il était sur place à Atlanta. Stéphane, première question que j'aurais pour toi. Qu'est-ce qu'on avait sous-estimé ou surestimé pour se retrouver avec seulement 16 points dans le match d'hier?
Hey, ça, c'est une excellente question. On avait, je pense, moi, sous-estimé la défensive des Patriots. Parce que, oui, c'est beau de se dire, ouais, mais c'est une défensive dirigée par Bill Belichick, tu peux pas sous-estimer ça. Mais je trouvais pas que l'édition actuelle était particulièrement mordante, moi. Tu sais, je pensais que les Patriots allaient l'emporter, c'est ce que j'avais dit vendredi, mais je pensais que ça allait être par un beaucoup plus haut pointage. Puis quand je te parle de mordant, écoute, en termes de verges accordées cette saison, les Patriots ont été 21e, donc c'est pas une édition tout étoile, mais la force des Patriots, puis on en parlait aussi avant le match, oui, il y a des verges qui s'accordent, oui, on donne des gains, mais quand c'est le temps d'accorder les points, c'est là que les défensives de Bill Belichick s'illustrent, puis ça, c'est année après année après année. Mais franchement, le plan de match pour neutraliser l'attaque des Rams a été fantastique. C'est du grand Bill Belichick qu'on a vu. C'est peut-être pas le Super Bowl le plus spectaculaire, j'en conviens.
Non.
Mais honnêtement, ça a été toute une prestation défensive des Patriots. C'est pas n'importe quelle attaque qu'ils ont arrêté. C'est une attaque qui marque au-dessus de 32 points par match. Là. C'est quand même pas rien. Ça prenait un bon plan, ça prenait les bons joueurs pour l'exécuter. Donc, tu parlais en intro du fait que les Patriots, c'est plus que Tom Brady. Hier, c'est clairement pas lui qui a gagné le Super Bowl. C'est la défensive et c'est Bill Belichick, comme au début, comme au tout premier Super Bowl des Patriots. Donc, c'est le tour de roue complet.
OK. Will, maintenant, est-ce que tu as l'impression que les Pats ont gagné le Super Bowl ou les Rams l'ont échappé?
Je pense que les Pats ont gagné le Super Bowl. Et ils ont complètement muselé les Rams, qui n'ont clairement pas joué leur meilleur match de la saison. Mais ils ont été... Pas qu'ils ont mal sorti, mais les Pats étaient tellement prêts pour toutes les stratégies que les Rams allaient employer, principalement offensivement. Bon, on a eu de la difficulté un peu à contrer le gros numéro 99, Aaron Donald, qui a quand même causé des problèmes dans le champ arrière durant le match. Mais on était quand même bon pour le contrer à quelques reprises et pour avancer le ballon, surtout dans des situations de troisième essai où Julian Edelman était la plupart du temps seul sur le terrain. On était capable de le rejoindre. Mais je pense vraiment que les Rams n'ont peut-être pas joué leur meilleur match, mais il faut donner absolument du crédit aux Pats. Puis Stéphane l'a mentionné, puis je sais qu'aujourd'hui, on louange beaucoup Tom Brady, mais c'est la victoire de Bill Belichick. C'est le Super Bowl de Bill Belichick et non pas de Tom Brady. Je comprends, il a quand même bien joué, Tom. Là. Ils ont marqué un toucher important. Et Rob Gronkowski a peut-être sorti son meilleur match de la saison au moment où le plus important au Super Bowl. Catch très important au quatrième quart pour les amener à la porte de la zone début. Sonny Michel a compté le toucher après. Mais moi, je suis un petit peu déçu de la prestation de l'offensive des Rams, mais principalement de Sean McVay, qui n'a pas été capable de s'ajuster durant le match. On en avait parlé, Dan, vendredi dernier, quand on analysait ce match-là. Il fallait à tout prix qu'on installe notre jeu au sol pour par la suite avoir du succès avec notre jeu de passe et le jeu aérien. On n'a jamais été capable d'installer notre jeu au sol, autant avec Todd Gurley qu'avec C.J. Anderson. Et le jeu de passe en a donc souffert. Jared Goff n'a pas été capable de prendre la pression, de souvent se débarrasser justement de la pression dans le champ arrière pour réussir des passes comme Mahomes est capable de le faire en roulant vers la gauche ou vers la droite. Mais je suis un petit peu déçu de Sean McVay qui, clairement, et il l'a dit dans l'extrait qu'on vous a présenté un peu plus tôt dans l'émission, il a été out-coaché complètement par Bill Belichick et il n'a pas été capable de s'ajuster. Alors, je pense qu'il faut donner absolument crédit aux Pats, mais les Rams n'ont pas joué leur meilleur match.
OK. Stéphane, maintenant, évidemment, les amateurs de football se sont exprimés sur les médias sociaux pendant le match. Plusieurs ont traité ce match-là de match boring. C'était plate à regarder. Il n'y a pas beaucoup de points. Pourtant, dans une saison où on a eu des classiques, là, je pense à Chiefs-Pats, je pense à Rams-Saints, il y a eu quelques bons matchs à très haut pointage qui nous laissaient croire peut-être que dans un affrontement Pats-Rams au Super Bowl, au 267e match d'une saison enlevante, ça allait être fort intéressant. Est-ce que c'était moins pire sur place?
Ben, l'ambiance sur place était excellente pour le simple fait que c'était franchement impressionnant de voir à quel point la foule était pro-Patriots. C'était à se demander si le match n'était pas à Foxborough quand tu te fermais les yeux. Là.
Ah oui?
C'était à ce point-là. Moi, j'ai jamais vu ça parce que, tu sais, je te dirais qu'au Super Bowl, habituellement, la foule, je te dis pas que la foule n'est pas dedans, mais c'est partagé, tu sais, puis c'est pas nécessairement les vrais fans purs et durs des équipes qui sont là. Parce qu'il y a beaucoup de questions de marketing et de corporatif là-dedans, les billets qui sont attribués. Donc, moi, je m'attendais à un avantage du terrain en faveur des Patriots pour ce que j'avais vu durant la semaine en ville à Atlanta. T'sais. Je voyais clairement plus de fans. C'était à se demander si les fans des Rams avaient décidé de sortir de LA. Mais honnêtement, une fois le match commencé, c'était vraiment frappant. On l'a vu, Jared Goff, une couple de fois, avoir un peu de la misère au niveau de la communication avec les entraîneurs, sans parler d'un facteur déterminant. Là, c'est pas ça qui a causé la perte des Rams, on s'entend, pas du tout. Mais ça a été quand même un élément de plus à négocier. Puis quand t'as pas de bagage d'expérience dans les moments comme ceux-là, ça ajoute à la pression là, qui est sur tes épaules.
T'as raison, puis je disais tout à l'heure dans l'émission du retour que Jared Goff avait pas l'air prêt à gagner un Super Bowl, puis ça s'apprend pas, puis tu peux pas acheter ça au magasin. Tom Brady a 41 ans, puis il en a pas gagné 6 pour le fun, parce que lui sait comment gagner un Super Bowl.
Jared Goff, c'est le seul hier qui a joué plus mal que Maroon 5.
Oh boy, c'est pas peu dire. OK, OK, parfait, j'ai compris.
J'aime ça.
Will, est-ce que les Pats... là, Tom Brady a dit, le fait que je gagne, ça changera rien. Je vous ai dit que j'allais revenir, je vais revenir. Gronkowski, on le sait, est blessé de partout. Est-ce que les Pats, c'est quoi ta... Comment je dirais ça? Comment tu évalues cette franchise-là? T'sais, je vais y aller au sens large du terme.
Hey, écoute, Dan, c'est... c'est une dynastie qu'on on ne reverra peut-être jamais dans la NFL. Puis, tu sais, il faut jamais dire jamais, là. Ouais. Mais moi, je regarde assidûment le football de la NFL depuis 2001. Puis, sérieusement, tu sais, j'ai comme commencé à regarder le football quand au moment du début de la dynastie des Pats.
Ouais.
C'est tout à fait remarquable. Mais moi, ce qui me fait le plus halluciner dans la dynastie et la domination des Pats, c'est qu'on fait un roulement de joueurs depuis 15-20 ans. L'excellence des Pats se résume à trois hommes. Robert Kraft, le propriétaire, qui laisse beaucoup de latitude quand même à son homme de football, Bill Belichick, puis supporte quand même son équipe. C'est un des propriétaires les plus influents de la Ligue. Bill Belichick, bien sûr, qui a carte blanche pour les décisions football, qui, la plupart du temps, est capable d'aller trouver un joueur qui va fonctionner dans son système. Et bien sûr, sur le terrain, ben c'est Tom Brady. Faut pas négliger les apports de Rob Gronkowski, il y a eu des joueurs en défensive, Teddy Bruschi, on peut y nommer jusqu'à demain matin, mais je pense que l'excellence des Pats se résume à ces trois hommes-là. Puis dans le sport professionnel, Dan, là, on peut parler de n'importe quel sport professionnel. J'ai toujours dit, si c'est tout croche dans les bureaux, ça va être tout croche sur le terrain. Les Pats, c'est bien mené partout. Partout, partout, partout. Je suis convaincu que le concierge fait sa job chez les Pats. Il n'y a pas de poussière qui traîne à terre. Tu sais, tout est bien fait chez les Patriotes. Puis moi, ce qui m'impressionne, c'est le roulement des joueurs. C'est qu'on était capable de gagner malgré puis des Jimmy Collins ou des joueurs qui ont demandé des gros contrats. On a fait va-t'en ailleurs. On va pas te signer. T'étais bon pour être avec ton contrat recrue. T'étais bon dans notre système, mais c'est pas vrai qu'on va te faire une place puis que tu vas devenir le joueur le mieux payé de notre franchise. On va en amener un autre puis on va avoir autant de succès. Moi, c'est ce qui m'impressionne chez les Pats. Le roulement de joueurs au fil des ans, puis l'excellence se résume à trois hommes. Puis on est capable, malgré le roulement des joueurs, de continuer à gagner, c'est remarquable.
OK. J'aime l'analyse de Will, Stéphane. Je continuerai sur le même sujet. Est-ce que on a préparé, puis de toute façon, est-ce que ça se prépare l'après Belichick puis l'après Brady?
Je pense pas qu'ils sont rendus à ce niveau-là. Brady a dit clairement, puis plusieurs fois, qu'il espérait jouer encore 2, 3, 4 ans. Est-ce que on peut songer techniquement au repêchage à y aller avec un jeune puis tranquillement amener la relève? Peut-être. Mais sinon, Bill Belichick a pas démontré aucun signe de fatigue. Il a pas l'air d'un coach qui fait allusion à quoi que ce soit. T'sais. Des fois, il y en a qui lancent des messages dans leur conférence de presse à l'effet que, je sais pas, bon, on sait jamais quand ça va finir ou quoi que ce soit. Bill Belichick ne fait jamais allusion à ça. Tom Brady ne fait jamais allusion à ça. C'est pas une équipe qui semble regarder dans une autre direction pour se rajeunir ou quoi que ce soit. Puis, pour renchérir sur le point de Will, tu sais, quand il dit ce qui l'impressionne le plus, réalisez-vous à quel point on dit toujours le succès d'une équipe, ça passe par le repêchage. Ça fait des années que les Patriots repêchent en fin de ronde, puis en fin de ronde, puis en fin de ronde. Ils trouvent toujours la perle rare. Ouais. C'est incroyable ça quand même. Il faut donner le mérite là-dessus à Belichick en tant qu'évaluateur de talent, au-delà de coach comme tel. T'sais, je regardais les bonhommes de la ligne offensive. C'est tous des choix de 4e, 7e, 5e ronde. C'est pas des choix haut placés en première ronde. Sonny Michel, le porteur de ballon, on l'a repêché à la toute fin de la première ronde. Il y en a d'autres qui auraient pu le voir avant là, cette année. C'est toujours comme ça, les Patriots. Ils ont le don de trouver le bon joueur, peu importe le rang où ils sont. Puis l'autre chose qui est impressionnante à long terme, c'est que regarde leurs différents Super Bowls. Ils ont toujours trouvé une façon différente de gagner. Il y a eu les remontées fabuleuses de Tom Brady, je pense à Atlanta, évidemment. Mais cette année, Tom Brady, qui joue un match correct sans plus, pis c'est la défensive qui va chercher la bague. Ils ont toujours des façons différentes de l'emporter. C'est ce qui fait, je pense, leur marque de commerce.
OK. Will, dans l'entrevue qu'on vous a présentée à les auditeurs vendredi avec Glenn Constantin, Glenn disait les Rams ont signé des joueurs autonomes et je leur conseillerais de gagner cette année ou l'an prochain. Après ça, ça va peut-être être un peu plus tough, même si Jared Goff est très jeune. Est-ce que tu as l'impression que dans 5 ans, si les Rams... D'abord, est-ce que tu vois les Rams retourner au Super Bowl sur une période de 5 ans? Et s'ils ne retournent pas, est-ce qu'on va dire « Ah, ils sont allés juste une fois, eux autres, mais c'est à cause des arbitres? »
Non, sérieusement, je pense que les Rams vont être encore très bons l'année prochaine, puis ils vont compétitionner dans les prochaines années. Quand un jeune entraîneur comme Sean McVay, puis tu sais, on en parle un peu négativement depuis le début de l'analyse du match, mais sérieusement, c'est peut-être un des meilleurs entraîneurs de la NFL quand même, là. Puis tu sais, il va rentrer ça dans le bagage d'expérience, c'est fait hors de coacher, par peut-être le Scotty Bowman de la NFL, le meilleur entraîneur de l'histoire du football. C'est pas gênant non plus quand même.
Non.
Donc, avec un Jared Goff qui a 24 ans, qui lui aussi va apprendre de ce match-là hier contre Tom Brady, la légende. prendre. Alors, t'as quand même Todd Gurley qui est jeune. Oui, on a signé quelques vétérans, les Sioux et compagnie, qui seront probablement pas de retour, mais le noyau est là. Chez les Rams, Aaron Donald est signé longtemps, Brandon Cooks, Jared Goff. Alors, l'avenir est quand même rose chez les Rams, puis je serais pas surpris d'ici 5 ans qu'ils soient de retour au Super Bowl. Sean McVay est arrivé il y a 2 ans, puis il a complètement changé le portrait de cette organisation-là. On venait de connaître une saison négative, on était la pire offensive de la Ligue, puis whoop, aussitôt que ce bonhomme-là est arrivé au sein de l'organisation, on est devenu la meilleure offensive de la Ligue. On a quand même marqué en moyenne 32 points par match cette saison. Là, hier, on en a marqué seulement 3, c'est un peu invraisemblable, mais moi, je suis pas inquiet pour l'avenir des Rams, sérieusement, puis leurs fans non plus ne doivent pas être inquiets, parce que l'avenir est rose, puis je pense que les Rams, menés par un entraîneur comme Sean McVay, un jeune carrière quand même qui a du potentiel comme Jared Goff, il pourrait être de retour au Super Bowl très bientôt.
OK. Stéphane, raconte-moi un peu ton après-match d'hier. T'es envoyé sur place pour une 8e fois par le Journal de Québec. Le match se termine vers 22h15 environ. Là, tu dois faire des entrevues, puis évidemment écrire des textes à la sauvette. T'en as fait toute la semaine. D'ailleurs, c'était très intéressant de te lire dans le journal. Mais ça ressemblait à quoi ton après-match? C'est-tu la folie où tu dois sacrifier un paquet de trucs ou dans l'ensemble, ça se fait bien?
Ben, je te dirais que la première chose qu'il faut que tu sacrifies, c'est si tu pensais faire de la grande poésie avec ça, faut que tu y ailles droit au but, parce que tu as très, très peu de temps pour écrire. La première chose, c'est d'éviter les erreurs. Faut que tu ailles amasser des commentaires. Il faut que tu écrives, il faut que tu trouves des angles différents, parce que bon, il y a le texte qui décrit le match, ça c'est une chose, mais on me demande aussi de produire une analyse dans laquelle je donne mon opinion sur une situation X. Donc, ça fait 2 choses à produire en très peu de temps. Donc, c'est ça. Tu laisses aller un peu, tu sais, la frioriture puis les extras, le côté français. Mais honnêtement, tu essaies d'y aller un peu plus droit au but. Puis, c'est toute une affaire. Là. Les joueurs, c'est pas comme si 2 minutes après le match sont disponibles pour des commentaires. Il y a des célébrations sur le terrain, il y a les rencontres avec les familles, il y a tout ça. Donc, c'est un peu le branle-bas de combat, c'est le tourbillon pendant de longues minutes, puis tu t'en vas t'asseoir, puis tu essaies de rentrer ça avant l'heure de tomber là, pour le journal papier. Après, tu peux fignoler un peu ça pour le web, puis c'est évident que tu n'as pas tous les commentaires que tu voudrais, donc t'en remets le lendemain, comme aujourd'hui, j'ai diffusé d'autres textes là, sur le web pour, ajouter un peu de viande autour de l'os. Mais sur le coup, c'est tu vas droit au but, tu t'assures de livrer pour l'heure de tomber, et puis tu te fermes les yeux et t'espères qu'il n'y aura pas d'accident.
Will, tu connais l'expression au hockey, on dit un bon hockey sense.
Ouais.
J'aimerais que tu me parles un peu maintenant de Tony Romo, qui revient dans toutes les discussions. On sort un peu du match, puis on s'en va dans le boot de CBS. Est-ce qu'à l'époque où il jouait, je sais que c'est un bon athlète, puis je pense qu'au total de sa carrière, ça n'a pas été aussi bien que ce qu'on aurait pu souhaiter.
Ouais.
Est-ce que c'était prévisible pour vous, des gars comme toi, Steph, puis vos chums, de voir un Tony Romo devenir aussi bon d'analyste avec son football sense, je vais appeler ça comme ça.
Non, c'est quand même surprenant. C'est toujours un gars qui était intéressant à écouter en entrevue, par contre, Tony Romo. Puis c'est un gars qui était capable de parler, vulgarise bien. Donc, tu sais, il y a eu une offre pour aller à CBS. Je pense qu'il y avait même des offres sur la table pour aller dans d'autres formations. Il a décidé d'accrocher ses crampons, d'aller immédiatement de devenir analyste, commentateur à la télévision. Puis il est tellement intéressant à écouter, puis j'aime son enthousiasme. Tu sais, le football, c'est très technique. Puis pour aller chercher la masse populaire, je te dirais, Dan, faut que tu rendes ça quand même intéressant, de façon drôle aussi, puis expliquer, mais de façon simple. Tu sais, il y a des analystes, je trouve, des fois, qui vont perdre 75% des gens qui écoutent le match en nous expliquant un tracé de passe qui est beaucoup trop complexe pour le commun des mortels. Tony Romo rend ça accessible à tout le monde. Il est intéressant à écouter, mais tu m'aurais dit, est-ce qu'après sa carrière, il va devenir 2 ans plus tard pour probablement l'analyste le plus réputé dans le monde du football? Je t'aurais probablement dit non, mais c'est pas surprenant parce que c'est un gars qui était vraiment intéressant en entrevue. Puis là, il va connaître une fulgurante carrière peut-être d'analyste. Puis également, ça lui a donné, j'ai l'impression, quelques petites étoiles dans son cahier pour éventuellement tomber sur les lignes de côté d'une équipe de la NFL.
C'est ça que j'allais te demander. J'ai aucune idée si lui veut, mais est-ce que toi, tu le verrais comme coach?
Assurément.
OK.
Assurément. assurément. Okay. Puis je pense que là, il prend son temps après sa retraite. C'est de longues saisons quand tu joues dans la NFL. Là. Puis tu vois pas beaucoup la famille, c'est tout ça. Mais convaincu qu'on va voir Tony Romo m'emmener sur les lignes de côté d'une équipe de la NFL. Peut-être commencer comme entraîneur des carrières, après ça monter comme coordonnateur offensif. Je pense pas qu'il va passer d'analyste à entraîneur-chef. À moins vraiment qu'une concession lui déroule le tapis rouge puis pense que c'est l'homme de football par excellence. Mais je suis convaincu qu'on va voir Tony Romo et à l'écouter comme analyste, et l'écouter à prédire les jeux, l'écouter à analyser les défensives, je pense qu'il pourrait faire tout un job comme entraîneur.
OK. Stéphane, on connaît pas évidemment le repêchage et les signatures de joueurs autonomes, mais est-ce que avec ce que tu viens de voir dans la saison 2018-2019, quelle équipe, selon toi, tu peux m'en nommer une, deux ou trois, quelle équipe a le meilleur noyau pour bien performer l'an prochain?
Écoute, j'ai tendance à penser aux Chiefs, là, vite comme ça, mais il va falloir améliorer là, quelques morceaux en défensive, ça c'est sûr et certain, parce que tu me poses la question par rapport au noyau, donc je vois l'ensemble de l'équipe. Mais la saison qu'a connue Patrick Mahomes me fait dire que les Chiefs vont être une menace constante là, du jour 1 l'année prochaine. D'ailleurs, je pense avoir vu circuler aujourd'hui une info à l'effet qu'ils seraient déjà les favoris pour le prochain Super Bowl. Ça a bien le temps de changer. Ça va dépendre, comme tu le dis, du repêchage, du mouvement sur le marché des joueurs autonomes. Mais si tu me tordais un bras et tu me disais aujourd'hui qui va changer, qui va aller au bout l'an prochain, je dirais les Chiefs, mais écoute, on va pas couler ça dans le béton. Je vais me donner quelques mois pour penser à mon affaire comme faut.
OK, je comprends. Will, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que c'était stratégique puis c'est un jeu d'échecs, puis à l'inverse, des gens qui disent c'était plate, moi c'est le pire Super Bowl que j'ai jamais vu?
Ben, je me situe un peu à mi-chemin de ces deux arguments-là.
OK.
Autant ceux qui disent que ça a été un excellent match défensif, une partie d'échecs, Relaxé. J'ai déjà vu des bien meilleurs matchs défensifs. Puis c'est vrai que la défensive des Pats a été excellente. Il y a quand même eu deux interceptions, deux ballons échappés. Mais j'ai déjà vu des bien meilleurs matchs défensifs. La défensive des Ravens de 2001, leur épopée vers le Super Bowl, c'était incroyable de regarder la domination de cette défensive-là. Oui. Donc, c'est pas vrai que ça a été un match d'échecs extraordinaire défensivement. Par contre, est-ce que ça a été plate et le plus plate des Super Bowls que j'ai vu? Probablement pas. Fait que je me situe à mi-chemin entre les deux. Clairement, ça n'a pas été spectaculaire, puis c'est pas avec ça qu'on va vendre le football chez le commun des mortels. Par contre, moi, j'aime ça des fois voir une confrontation d'entraîneurs de la sorte. Tu sais, Sean McVay est tenté de sortir un lapin de son chapeau pour déjouer le bon vieux Bill. Donc, c'était une partie d'échec intéressante. Le match n'a pas été plate, mais n'a pas été spectaculaire. Fait que moi, je me situe un peu à mi-chemin entre les deux.
OK, Stéphane, au-delà du pointage à bas, évidemment avec très peu de points, est-ce que la NFL sort soulagée étant donné que l'arbitrage n'a pas valu le show dans ce match-là?
Ouais, c'est un bon point parce qu'après la finale de la conférence nationale, écoute, même cette semaine au Super Bowl, ça parlait que de ça. La conférence de presse du commissaire Roger Goodell qui a lieu le mercredi à chaque année au Super Bowl, je te dirais qu'au moins la moitié des questions ont porté sur la question de l'arbitrage et des interférences et des reprises vidéo qu'on pourrait peut-être extensionner sur des jeux qui sont pas en ce moment admissibles à la reprise vidéo. Donc, c'était un gros nuage qui planait au-dessus de la NFL à l'aube du grand match. Puis honnêtement, là-dessus, ben, je pense que les arbitres ont laissé jouer ce match-là. Il n'y a pas eu là, de call flagrant qui ont été ratés ou qui ont été donnés. Bon, il y a eu à un moment donné un cas de rudesse inutile à Robbie Coleman. Peut-être, c'est discutable, mais c'est pas flagrant non plus. Là. C'est rien qui peut entacher l'esprit du match. Je pense que personne va pouvoir dire ce matin, bon, ben là, les Rams ont perdu à cause de telle décision des arbitres. Ça aurait été un giga œil au beurre noir, puis heureusement, comme tu dis, la NFL s'en sauve.
OK, dernière question que j'ai pour toi, puis je vais poser la même question à Will pour conclure notre discussion. Les Pats, on est d'accord, c'est une dynastie. Est-ce que cette dynastie-là va se poursuivre, mettons, avec des choix de réponse dans un examen du secondaire, là, encore 1 an, 3 ans ou 5 ans?
Maximum 3 ans, selon moi. Tu sais, à part si on repêche le successeur de Tom Brady puis qui est aussi bon que lui, mais c'est quoi les chances que ça arrive? Faut être honnête, là,
très
à un moment donné.
Très mince.
C'est très, très, très mince. Tu sais, je regarde même les Packers qui ont eu Brett Favre, qui, suite après, sont tombés avec Aaron Rodgers. C'est rare que ça arrive, une vague de succès continue là, comme celle-là sur de nombreuses, nombreuses années. Donc, il faudrait que les Patriots aient un brin de chance de ce côté-là. Donc, tant que Belichick va être là, ça va demeurer, je pense, une bonne équipe. Mais tu me poses la question, est-ce que ça va être une dynastie? Je pense qu'on assiste quand même aux dernières années. Puis c'est okay. pas de dire que les Patriots sont finis et qu'ils sont pas bons. C'est juste une question de voir les choses dans un portrait réaliste.
OK, 5 ans, c'était peut-être exagéré. Will, 1 an, 2 ans ou 3 ans?
Il n'y aura pas de chicane. 3 ans, je suis d'accord avec Steph.
Au max. Ouais,
3 ans. Mais regarde, j'ai appris ma leçon cette année. Il ne faut plus jamais parier contre les Patriots. Il ne faut plus jamais les penser finis ou affaiblis. Sérieusement, tant et aussi longtemps que Bill Belichick va être à la barre de cette équipe-là avec Tom Brady comme carrière. Tu sais, Peyton Manning, dans ses dernières années, il avait clairement ralenti. Clairement. Il n'avait plus la même force dans le bras. Il lisait moins bien les défensives. Tom Brady, tu ralentis tant que ça? Il est peut-être meilleur qu'il l'était il y a 5-6 ans.
Fait que, est-ce qu'on parle assez de Josh McDaniels, messieurs?
Ben, je pense qu'on en a parlé en masse l'année passée quand il a fait faux bond au Colts, mais tout ça pour dire que McDaniels fait partie des succès des Pats. C'est évident. Regarde les ajustements au quatrième quart hier. L'attaque allait nulle part, donc c'est pas le plus grand match de coach de Josh McDaniels. C'est pas mon point. Mais quand l'attaque allait nulle part puis que tu as eu besoin d'un changement, il a pas hésité à bouger son personnel. Il a amené des formations à 2 ailiers rapprochés avec le centre arrière James Devlin aussi sur le jeu. Donc, des formations très lourdes. On a été capable de tromper la vigilance des Rams de cette façon-là. Puis quand il a fallu écouler le temps, ben, cette formation lourde-là a permis de courir, de faire mal aux Rams au sol, d'écouler les dernières secondes. Donc, il a procédé aux ajustements nécessaires, ce que Sean McVay a peut-être pas su faire de l'autre côté.
OK, Will, pour toi, c'est clair que McDaniels va prendre la succession de M. Belichick?
Je pense que oui, puis ce qu'on a vu l'année dernière quand McDaniels a fait faux bond aux Colts pour revenir avec les Pats, je pense qu'on lui a dit « Ouais, veux-tu remplacer Bill dans quelques années? Okay. On va te dérouler le tapis rouge. » Sérieusement, être un entraîneur offensif puis avoir carte blanche de la part de Bill Belichick, je pense que t'es un gars compétent. Puis t'es mieux de te lever le bonheur parce que Bill va toujours être en arrière pour regarder ce que tu fais. Alors McDaniels est un gars excessivement compétent puis fait partie intégrale des succès des Pats.
Parfait, merci beaucoup messieurs. Stéphane, ça a été un plaisir de parler avec toi toute la saison de football puis je sais que les auditeurs ont grandement apprécié. Merci à toi.
Merci Steph.
Merci à vous les gars, c'est vraiment le fun.
Salut Stéphane. Stéphane Cadorette, l'envoyé spécial du Journal de Québec au Super Bowl. Et Will, même chose pour toi. Un gros merci pour ta collaboration
merci
tout au long
toi,
de l'automne. Je me considère privilégié de pouvoir parler football avec deux gars qui connaissent ça autant. Pendant que Will va appeler notre prochain invité qui était dans le stade hier à Atlanta, je vais vous donner le corrigé du quiz que je vous ai placé sur la page Facebook de l'avant-match vendredi. Et je veux remercier les nombreux auditeurs qui m'ont envoyé des courriels pendant le week-end concernant cette entrevue de Glenn Constantin. Entre autres, un monsieur Bergeron hier qui m'écrivait, qui me disait « Bravo Dan, j'ai écouté l'entrevue avec Glenn Constantin et Glenn Constantin a jasé avec toi comme rarement on l'a entendu parler depuis qu'il est à la barre du Rouge et Or. » Donc les gens qui veulent réécouter ça, c'est sur FM93.com dans l'onglet de l'avant-match. Quelle équipe va remporter le Super Bowl? C'était mon quiz de 10 questions. Évidemment, c'est les Pats. La première passe de Jared Goff et de Tom Brady, ça a été incomplète. Dans le tas de Brady, ça s'est soldé par une interception. Quelle équipe va mener va s'inscrire au pointage en premier, pardon, c'est les Pats. Combien y aura-t-il de revirements dans le match? C'est 2 ou 3. Le nombre de placements, c'est 2 ou 3 également. Le nombre de points, c'est 51 et moins. Évidemment, le quart où il s'est marqué le plus de points, c'est le 4e. C'est Sonny Mitchell qui a amassé le plus de points, de verges, pour les porteurs de ballon. Et c'est Julian Edelman, le gars qui a été joueur par excellence du Super Bowl 53.